Le Festival OFF de Québec, c'est quoi? C'est l'enfant terrible des grands événements musicaux. C'est une programmation plus risquée. Des fois, c'est un peu champ gauche. D'autres fois, les performances sont justes, mais vraiment intenses. Mais c'est tout le temps festif. Le genre de soirée qu'on n'oublie pas. Jamais. Le Festival OFF de Québec, c'est du 4 au 8 juillet. La musique est bonne, la bière est pas chère, t'es pas prêt. Programmation complète sur québecoff.org, une collaboration choc.ca.
Le Festival Diapason, présenté par SiriusXM, vous invite à sa 10e édition du 5 au 8 juillet à Laval. Spectacle gratuit des trois accords, Plants and Animals, Chad Van Gallen, Kendall, Kid Kuna, Rhymes, Clopel Gag en solo et bien plus. Nouveauté cette année, prolongez votre expérience au festival grâce au premier camping urbain à Laval. Terrain de camping en vente au www.festivaldiapason.com. Navette gratuite offerte par la STL à partir du métro Montmorency. Le Festival Diapason du 5 au 8 juillet dans le quartier Sainte-Rose à Laval.
Poulipop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca.
Bonsoir ou bonjour, c'est Oxmo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. C'est pour ça que ça bouge comme ça.
Switch off your television set immediately unless you are prepared to be really terrified.
Bonsoir, chères créatures de la nuit, bienvenue aux Oubliettes, votre sanctuaire des films étranges et oubliés en festival. Et oui, c'est le festival Fantasia qui s'en vient et vous nous connaissez, on est déjà en mode festival avec nos chemises hawaïennes, nos passes backstage, puis nos petits tubes dans le cou pour mettre notre change. Ceci étant dit, malheureusement, Olivier ne sera pas avec moi cette semaine pour des raisons diverses, mais dont se reposer avant d'attaquer la tempête Fantasia. Mais je ne serai pas seul en studio aujourd'hui. Je reçois... Si Fantasia représente un peu mon Père Noël à chaque année, ben je pense qu'aujourd'hui, je reçois deux de ces lutins. Les fabricants de cadeaux, Ariel Esteban Caillé et Nicolas Archambault, deux programmeurs amateurs du festival. Bonsoir les gars.
Salut.
Bonsoir.
Ça va bien?
Oui, toi?
Oui.
Excellent, excellent. Pas trop brûlé, là?
Juste assez.
Juste assez.
Allez voir. Par la canicule.
Ouais, ouais, surtout, hein. C'est vrai qu'il fait chaud en ce moment. Parce que là, c'est les derniers préparatifs avant le festival. On vous rappelle les dates. Donc, ça débute le 12 juillet. Ça va avoir lieu jusqu'au 2 août. Et ça se passe bien sûr à l'Université Concordia, à l'auditorium des diplômés de... Comment tu le dis? Parce que je sais qu'avant, on disait le Hall Concordia, puis ouais. Là, ça a changé pour l'auditorium des diplômés de la SGWU?
Exactement.
Simplement?
Tout simplement.
OK. Donc, ça, c'est au 1455 boulevard de Maisonneuve-Ouest, à Montréal, donc métro Guy Concordia, et c'est la 22e édition du festival. À quoi s'attendre du festival? Êtes-vous content de votre programmation cette année, les gars?
Ah oui. Oui,
ouais,
oui.
Absolument. On a une programmation, je dirais, qui est super... qui est vraiment tête, en fait, cette année. Je dirais que la qualité est vraiment là. Puis en fait, je trouve qu'on a été extrêmement rigoureux aussi dans nos choix.
Ouais.
Puis c'est quelque chose que, bon, évidemment, on va laisser les festivals liés juger de tout ça. Puis c'est quelque chose dont ils se rendront probablement juste compte à la fin. Mais personnellement, moi, c'est une de mes années préférées en termes de...
Ah oui?
De la qualité des films. Puis de mon attachement aussi personnel à certains de ces films-là. Je trouve que... Il y a quelque chose qui se passe, puis c'est juste, bon, nous, on vit au gré des marées, là, puis de la production, mais il y a vraiment quelque chose de le fun cette année, à mon avis.
Puis on a gardé, c'est plus tight, mais en même temps, il y a le même éclectisme, il y a le même, on va toucher à tous les genres, on va chercher dans des dizaines de pays, tu sais, c'est le festival est ce qui... continue à faire ce qu'il fait de mieux, mais avec un petit resserrement salutaire et moi aussi, cette année, c'est vraiment une année où tu me dirais c'est quoi ton film préféré, puis je n'aurais vraiment énormément.
Tu serais pas capable de choisir
un film. Si tu fais ça, je m'en vais.
Ça, c'est bon signe. Ben justement, c'était ma prochaine question. Non je te ferai pas ça. Mais donc on peut considérer que cette année on nous offre un petit peu moins de films, mais une meilleure sélection, donc, selon vous?
Ouais, ben on pourrait le dire comme ça. On est revenu à un modèle de deux salles. L'année passée, si vous vous souviendrez, ouais, on avait trois. Donc comme on se disait, ça nous a permis justement de faire, c'est ça, des choix rigoureux,
des choix difficiles,
des choix, ouais, difficiles, en fait, c'est ça. Puis en même temps, je trouve que plus les années avancent, plus on est aussi confiant en notre identité en tant que festival, ce qui nous permet aussi de faire des choix qui, peut-être il y a quelques années, ou du moins moi en tant que programmateur, peut-être qu'il y a quelques années, je me serais dit, ah, c'est pas tant un film pour Fantasia, mais on a bâti un public qui aime prendre des risques. Donc ça nous permet aussi de faufiler des films qui, comme un de mes films préférés, c'est un film qui s'appelle Amico, qui est un film réalisé par une jeune fille de 20 ans. En fait, c'est comme un genre de coming of age d'écolière japonaise, tu sais. Puis c'est un film qui, a priori, est-ce que c'est un film de genre? Ben, nous, on décide oui, absolument. T'sais, c'est une comédie, c'est un coming of age, il y a ces éléments-là, super, il y a cette énergie-là qui correspond à 100% à l'énergie du festival. Mais c'est ça, c'est des trucs comme ça qui... C'est ça, c'est tight, mais en même temps, on prend les mêmes genres de risques en termes de ce qu'on définit comme un film de genre ou pas. T'sais, fait que ça nous permet... Il y a quelque chose pour moi de vraiment le fun dans la programmation cette année, parce qu'on joue avec ça aussi.
Puis on est béni des dieux avec le public qu'on a. T'sais, on a un public qui est curieux, qui est enthousiaste, qui connaît le cinéma. Et puis... la curiosité, c'est un élément que, tu sais, il y a quelques années, on arrivait, mais des films comme Breathless, c'est des drames coréens, on se disait, on va essayer. Puis les gens ont embarqué, puis les gens m'en parlent encore. Fait qu'on a aussi notre public à remercier pour ça.
Ah, c'est clair. Ben, d'avance, hein, je le dis à chaque année, je vais leur dire, ce qu'on aime de Fantasia, c'est l'ambiance, c'est la foule en délire. On a une ambiance de game de hockey qui lève, mais pour des films de genre, pis ça, on voit pas ça partout. On est bien chanceux d'avoir ça.
Dans le game
ça.
De hockey non plus, on voit pas ça souvent.
Non, c'est vrai que dernièrement, non. Ici, c'est assez rare. Mais je suis d'accord avec vous aussi au niveau curiosité, découverte. C'est sûr que c'est jamais tout le monde. Il y a toujours des gens déçus de ci ou de ça, mais moi, c'est ça que j'aime avec Fantasia. C'est de découvrir des films que je découvrirais pas, que je prendrais pas la chance de regarder si c'était pas dans le contexte de Fantasia. Puis j'ai fait comme ça des belles découvertes, que ce soit au niveau des comédiens, au niveau des réalisateurs, ou juste un genre de film ou un pays. J'ai découvert des petits chefs-d'œuvre comme ça en essayant, en me lançant aveuglément dans votre sélection. C'est sûr qu'il y a des déceptions, mais il y a tellement plus de coups de cœur à chaque année que des déceptions, que on s'en sort jamais vraiment déçu du festival. Je pense que c'est pas quelque chose qui est possible. Donc, c'est sûr que tous les goûts sont dans la nature, mais c'est ça qui est le fun avec Fantasia. Tous les goûts sont réunis dans un seul et même festival. Puis j'ai bien hâte de me lancer cette année. Avant qu'on parle de la programmation, quelques petites informations de base. Donc, le programme, le fameux magazine que vous aimez tant ramener en souvenir à chaque année pour cataloguer toutes vos sélections. Donc, il va être disponible en magasin le 6 juillet. Encore une fois, pour la somme de 5$. Tous les points de vente sont disponibles sur le site web. Il y en a énormément, donc gâtez-vous, allez voir c'est quoi le spot le plus proche de chez vous, 6 juillet, et dès le lendemain, les billets vont être mis en vente, donc le 7 juillet, et ça c'est à partir de 13h au Hall Concordia, donc à la place que je suis pas capable de renommer, là, l'auditorium des diplômés de la SGWU, donc 1455 Boulevard de Maisonneuve-Ouest, à 13h, et là, hein, je pense que vous allez pouvoir confirmer, pour les gros titres, va falloir arriver tôt, plus tôt que 13h, parce qu'il va y avoir une file d'attente de geeks impatients d'obtenir des billets de gros titres, ne serait-ce que pour Summer of 84, dont on a parlé à l'émission il n'y a pas longtemps. Petite annonce aussi, petit quelque chose moi qui a attiré mon attention. Fantasia fait ça pas tous les ans, mais presque. Et c'est toujours des événements qui sont bien trippants. Moi, je vous invite fortement à tenter votre chance à la projection de L'Inferno, un film italien de 1911. Donc, un film muet, mais c'est présenté en ciné-concert sur une musique de Maurizio Guarini du groupe Cult Goblins. Donc ça va être assez phénoménal. 1911, moi, ça me fait bien triper. Savez-vous si il y a le Film Society est derrière ça? Spurrell?
Pas ce que je sache.
Non. J'étais curieux. Je sais que l'année passée, bien souvent, ils présentaient des petits concepts comme ça, ciné-concert. J'étais curieux. Mais bon, moi, je pense qu'on pourrait commencer par la journée d'ouverture et plus précisément avec Nightmare Cinema de Mike Garris, parce que il y a beaucoup plus que cette projection-là. Cette année, vous remettez un prix honorifique pour l'ensemble de la carrière de Joe Dante, et il va être présent ce soir-là.
Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est pas juste un film de Mick Garris.
C'est ça.
C'est une anthologie qui réunit, en fait, c'est ça, cette génération de cinéastes-là, donc Mick Garris, Joe Dante, mais également des cinéastes contemporains comme Ryue Kitamura, qui avait fait Midnight Enemy Train, mais aussi
Versus.
Oui,
classique.
Plus récemment, un film qui s'appelle Downrange. Ainsi que d'autres réalisateurs. Donc, un peu à la formule Theater Bizarre, si tu te souviens, où en fait, les anthologies, il y en a plusieurs.
Mais même que je dirais qu'il semble y avoir un retour de l'anthologie à Fantasia cette année dans votre programmation.
Il
y en a plusieurs.
Je pense qu'il y a un retour de l'anthologie de manière générale. Cool, hein? Ben, tu penses à Field Guide to Evil aussi.
Entre autres.
Je pense que c'est devenu avec le temps. D'un point de vue, on pense à tous les ABCs of Death, les VHS et tout ça, je pense que d'un point de vue de producteur, c'est une façon super attrayante de faire un film, dans la mesure où tu donnes un cachet, tu donnes un budget puis un cachet à cinq personnes différentes qui sont cinq raisons de vendre ton film après,
t'sais. C'est ça.
Joe Dante et Mick Garris, ça vaut plus que juste Joe Dante, puis au final...
puis Ryo Kitamura,
etc.
Ça s'accumule vite.
Fait que le capital de ton film s'accumule très rapidement, puis c'est quelque chose qui permet... puis aussi, en retour, ça permet une grande liberté au cinéaste. En fait, tu vas le voir dans Field Guide to Evil, c'est des moyens-métrages, c'est des courts-métrages qui sont assez fascinants en soi, puis qui... Bon, on aurait peut-être eu de la difficulté à se faire financer autrement que, bon, en rassemblant un Peter Strickland, Agnieszka, je massacre son nom constamment, mais...
Je pense que tout le monde massacre son nom.
Je me risque pas là, moi.
et compagnie. C'est sûr que il y a un renouveau pour ça. Tu sais, c'est des films qui fonctionnent très bien.
Donc Joe Dante réalise... un des courts-métrages du film, il va être là, et c'est là est-ce que c'est ce soir-là, littéralement, qu'on lui remet le prix honorifique?
Exact.
Donc, ok, cool. Il va y avoir aussi, pour ceux qui s'intéressent, le 5 août, ils vont présenter Gremlins au Village du Pied du Courant. Donc là, il n'y a pas de chicane avec l'horaire, c'est carrément à la fin du festival, au Village du Pied du Courant, Gremlins, amenez votre toutou, ça va être bien le fun.
Oui. Puis si vous n'aimez pas Gremlins, vous n'avez pas d'âme.
Si vous n'aimez pas Gremlins, vous pouvez aussi vous replier sur la projection de The Howling à la Cinémathèque
25 juillet.
Oui, c'est une copie en fait qu'ils ont déjà montré, si je me souviens bien, puis à mon souvenir, c'était une belle copie quand même, fait que
35 mm,
ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment un film le fun à voir au cinéma, c'est certain.
Oui.
Certain, et c'est excellent ça. Et moi je dis qu'on se lance. aveuglément, je vous écoute. C'est quoi vos coups de cœur? Quels sont les films, chacun votre tour, que vous avez très hâte qu'on découvre ensemble?
Je vais y aller avec...
Vas-y, Nick, j'ai des problèmes.
tu peux prendre le suivant, c'était pas sûr. Hein?
C'était beau. Mais moi, un de mes réalisateurs japonais préférés, c'est Shinsuke Sato. Il avait fait la série les deux films Gantz. Il avait fait Library Wars, il a déjà fait de l'animation. C'est quelqu'un, c'est à peu près le Spielberg du Japon en ce moment.
Ah ouais, ok.
Pour toutes les, pour les gros films là, c'est le fournisseur de blockbuster numéro un. Puis on en a trois cette année.
Oh shit, ok.
Puis il va être là.
Ah oui, oui, en plus. Oui.
Puis c'est drôle parce que c'est vraiment un gros nom, mais le monsieur, il perd. c'est surprenant quand vous allez le voir. Mais anyway.
Qu'est-ce que tu veux dire? Il est bien mollo? Puis...
Ah, ben, c'est hyper mollo. Vraiment gêné, puis affable, humble.
OK. Ouais, ben c'est les meilleurs.
C'est ça. Puis c'est, en fait, on dit juste ça dans la mesure où c'est pour le calibre des films qu'il fait année après année. Tu sais, que c'est ça, Nick, il dit, c'est un peu le Spielberg japonais en ce moment, mais si, mettons, c'est Spielberg à son prime, genre, oh, oui. C'est Spielberg.
Il fait pas juste produire à la chaîne, là.
Non, c'est ça.
Takashi Miike qui va avoir un bon film sur 5, là, lui, c'est. Il est à son pic, il sort du bon matériel.
Il est pas mal à son pic, puis c'est ça, c'est le nom, je te dirais, de blockbuster japonais en ce moment.
Okay. Ouais.
Oui, d'une certaine manière, il enchaîne les adaptations de manga. Les trois films, c'est les adaptations de manga, mais il fait avec un calibre, une qualité qui est au-delà de la moyenne, disons.
Ok, wow, cool.
Oui, ben, t'sais, juste Bleach, qui est à peu près le un des mangas les plus connus sur la planète. Donc, on a réussi à mettre la main sur la première internationale de ce film-là. Puis,
oh, quand même, hein?
Oui, oui. Oh, oui. On va la beurrer, celle-là, pendant tout le festival. Mais tu parlais de se dépêcher pour acheter certains billets. Je vous conseille, pour celui-là, de faire ça.
Ça va se lancer vite, hein?
Oui, oui. Puis...
Le visuel a l'air assez incroyable, en tout cas. Là.
Ah, oui, oui. Puis, tu sais, moi, je l'ai vu, puis j'ai été surpris, tu sais, c'est vraiment bon là, c'est pas juste une adaptation, il y a une âme, les personnages sont hyper bien faits, les effets spéciaux sont, tu sais, des fois au Japon, mettons, l'effet spécial est pas aussi comment je pourrais dire, élaboré qu'à Hollywood, mais là-dessus pour ce film-là, ils ont rien à envier.
Okay.
Donc sur ces deux autres films aussi, Inuyashiki, qui est l'histoire d'un vieux, ben, un genre de monsieur dans la fin cinquantaine qui devient un genre de super-héros, un cyborg surpuissant, puis qu'il doit se. Mais le fun, c'est que le monsieur a toujours été boulié, sa famille le méprise, ses compagnons, ses pères au travail.
Ça devient une prise de contrôle.
C'est ça, mais lui, il veut bien faire, puis ouais. il a dans le même événement, il y a un jeune homme qui est devenu qui a eu les mêmes pouvoirs que lui, qui est l'acteur Takeru Sato, qui est c'est à peu près le Johnny Depp du, ben moi non plus maintenant, mais
il fut un Johnny Depp.
C'est un mauvais exemple, mais
Johnny Depp fut un temps.
Mais Takeru Sato, qui fait pour la première fois un antagoniste, c'est lui qui avait joué dans, je sais pas si tu connais, Rurouni Kenshin, l'adaptation du manga.
Non.
En tout cas, lui...
Ça ne veut pas dire que je ne suis pas bon, là.
Non.
C'est que je ne connais pas ça.
Mais c'est ça, c'est un acteur qui joue toujours les héros. Puis là-dedans, okay. Tu vois qu'il se fait du fun. Il est vraiment bon en antagoniste.
OK, cool.
Puis c'est drôle de voir un vieux monsieur voler à travers la ville. Puis,
c'est étonnamment violent. Ça, je comprends.
Puis ses films à Shinsuke Sato, c'est qu'il ne se gêne pas. T'sais, même s'il va faire un blockbuster comme Inuyashiki, ben il y a du body count. Vous allez voir le quartier Shinjuku, qui est le quartier le plus peuplé à peu près sur la planète, il mange la volée, dont ses habitants.
All right,
puis,
cool.
C'est ça, comme troisième film, il y a I Am a Hero, qui est seulement un des meilleurs films d'horreur de la décennie.
Ouais, parce que ça, on va se le dire, on en parlait avant l'émission, c'est un film qui est sorti depuis un bon bout de temps, là, mais que normalement, vous auriez repoussé, vous n'auriez pas pris pour le festival à cause de sa date de sortie, qui date de 2015, je pense.
Oui, c'est ça.
J'ai travaillé fort des autres années. C'est pas parce qu'on l'a pas eu qu'on n'a pas essayé.
Mais donc, moi, en tout cas, il est dans ma liste, là. Ça a l'air assez hot, là. Ça a l'air à brasser à la cabane, mais... vraiment bien réalisé. Oh. Le visuel a l'air débile.
C'est fou.
C'est rare qu'un film réinvente la roue là, en termes de un film de zombies, je veux dire.
Surtout, ouais.
Surtout, tu sais, je pense que c'est un genre qui, ben en fait on dit ça, je trouve on a deux cette année des films de zombies qui torchent, on pourra en parler de l'autre tantôt, mais
okay, oui.
Mais celui-là, je me souviens quand je l'avais vu, c'est ça, il y a déjà 3 ans. ça nous avait marqué à quel point c'était non seulement une excellente adaptation. En fait, le manga il vient de se terminer, puis okay. La publication du manga aussi vient de se terminer en français. En fait, c'était quand même un événement quand ça s'est passé. Fait que le timing, en fait, il est quand même intéressant pour ça. Mais autrement, ça nous avait tout marqué à quel point. Non seulement c'est une excellente adaptation, mais c'est un maudit bon film de zombies.
Puis c'est gore. C'est étonnant pour un blockbuster comme ça à quel point c'est gore. Puis, comme Ariel dit, ça, c'est très innovateur pour le genre. Tu sais, on n'a jamais vu des zombies comme ça.
OK. Ah ouais, c'est intéressant, ça.
Oui. C'est ça, il y a des petits twists. T'sais. Bon, après ça, les puristes diront ce qu'ils veulent, mais il y a des petits twists sur la mythologie, de t'sais, ce qui fait un zombie, comment ils agissent ensemble. Il y a des trucs très, très intéressants sur ça. Sans trop en dévoiler, mais ce que le manga... réussi à faire avec le genre est super fascinant, puis transmettre ça au cinéma, ça donne des trucs vraiment cool, en fait. Ouais.
Mais j'ai cette impression-là, n'étant pas un spécialiste du cinéma japonais, mais diriez-vous qu'en ce moment, on surfe une vague de zombies au cinéma au Japon? Parce qu'il me semble qu'il y en a de plus en plus, puis que c'est vraiment de la qualité qui sort dernièrement.
Ouais, ben en Asie, en général, je pense que Train to Busan, ouais. puis I Am a Hero ont lancé quelque chose.
Okay.
Ouais.
Puis il y en avait avant, mais c'était des faces en papier mâché. Les effets spéciaux de Fulci avaient l'air fait hier à comparer à ça. Là. Mais c'est en termes de qualité qu'il y a eu vraiment une grosse montée. Puis si vous avez aimé
c'est ça,
Train to Busan, ouais. pour moi,
c'est ça, t'as nommé Train to Busan, là, ça pique ma curiosité ouais. parce que ça, c'était un méchant film. Ouais. Là, c'était écœurant.
Mais c'est ouais. aussi bon, sinon meilleur.
Ok.
Juste pour te dire.
Ouais, ouais.
Quand
ouais.
même, hein.
Puis, je sais pas si c'est une vague tant que ça, mais, tu sais, si on considère que ça en fait putain de films de zombies.
Effectivement. C'est comme un genre, aux États-Unis, en tout cas, ça s'est fatigué beaucoup, là.
Tu sais, je veux dire, Walking Dead prend toute la place, puis même à ça, on dirait que c'est comme rendu vieux, c'est sur sa fin, puis tout. Fait que, c'est ça, l'espèce d'enfilade à I'm a Hero, Train to Busan, est quand même intéressante, là.
Mais t'as nommé un autre film de zombies. Tant qu'à ça, moi, je dirais, faisons de ce moment notre
bloc zombie. Oui, bien sûr, bien sûr.
L'autre, ça a piqué ma curiosité. Quand je regarde des films avec cette esthétique-là, OK, on va le dire, qui a un look série Z.
Oui, absolument.
On va se le dire, un look série Z. Je regarde souvent ces films-là avec cynisme, là, pour ouais. en rire, parce que j'aime les série Z cheap, j'aime les mauvais films sympathiques. C'est sûr qu'a priori, un film sérieux avec cette esthétique-là, je rebute un peu. Mais le concept du film, ça, il m'attire beaucoup. On parle ici de One Cut of the Dead.
C'est ça. C'est un premier film d'un jeune réalisateur qui s'appelle Shinichiro Ueda, qui a élaboré ce film-là, en fait, au terme d'une série de workshops avec des acteurs non professionnels. Puis, ce qui est intéressant, en fait, c'est ce qui est fascinant de ce film-là, c'est qu'il va exactement jouer sur ce que tu décris, sur tes attentes vis-à-vis d'un genre de film de série Z, ouais. un film, tu sais, à peu ou pas de budget, au point où je t'avoue, moi, quand j'ai reçu le screener de ce film-là, tu sais, j'étais pas sûr pendant très longtemps. Tu sais, j'étais dans la même zone d'inconfort. Est-ce que je suis face à, tu sais, à une série Z? Mais c'est un film qui...
C'est-tu volontaire ou involontaire?
C'est ça. Mais ce que tu réalises assez rapidement, c'est que c'est extrêmement volontaire, puis le film va se dévoiler à être un truc très méta, en fait, qui joue sur ça. Essentiellement, l'histoire, c'est l'histoire d'un tournage.
Ouais.
One Cut of the Dead, c'est plan-séquence of the Dead. C'est une équipe de tournage qui essaie de tourner un film de zombies en un seul plan. Mais ce que le film va faire, c'est te montrer, en fait, il va te présenter le plan, puis ensuite il va te montrer comment ils ont essayé de le faire, mais il y a une autre twist à ça, il y a un troisième niveau à ça que je dévoilerai pas.
Non, c'est ça.
Mais c'est fascinant, en fait, parce que ça t'expose un peu, ça t'expose un mauvais film pour te recomposer un très bon film, puis au final te faire apprécier en fait toutes les petits moments douteux ou drôles ou cocasses de ce mauvais film là en fait. Fait pour le cinéphile en fait qui est habitué à écouter des mauvais films de zombies ou des films de série Z, c'est comme si tout d'un coup là t'avais l'occasion d'aller backstage d'un Joe D'Amato, puis de te faire dire par exemple, oh ouais, mais le sang était de cette couleur là parce que le gars des,
ok, c'est intéressant, non, c'est, pis, si on aime ça,
puis la qualité d'écriture de ce film là c'est on le vantera jamais assez, parce que la première fois quand tu vois le film, le One Cut of the Dead, le plan séquence, à chaque détail où tu butes, tu fais comme, pourquoi ce zombie-là fait ça? Ou pourquoi ça, c'est là? Ou à chaque fois que tu trouves quelque chose de louche, ça t'est expliqué après. Et c'est génial, génial, génial. Ça, c'est vraiment un gros coup de cœur de l'équipe.
Okay, puis, cool. Puis au-delà de ça, le film est très drôle. Le film va construire des gags à partir de ses propres... Ben, en fait, de ce que tu perçois au début comme étant des faiblesses, tu sais. Mais que tu réalises, en fait, c'est très conscient.
Ouais. Ah ouais, okay.
Donc c'est très cool en fait. C'est un excellent film méta pour les fans de cinéma.
Nice.
Cinéma B, là, si on veut.
Nice. Ok. Ben, amenez-moi ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant?
Où est-ce qu'on peut rebondir à partir d'ici? Mais ben, peut-être, qu'est-ce qui toi.
Ben, on pourrait parler. Bon, regarde, je le dis à chaque année. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup la sélection documentaire de Fantasia. Est-ce qu'il y en a un cette année qui vous a vraiment accroché?
Ben moi personnellement il y a un documentaire, bon c'est pas de près ou de loin relié à l'horreur ou au cinéma, mais c'est un documentaire qui s'appelle People's Republic of Desire.
Oui, ça a l'air bien.
Qui est un documentaire chinois.
Oui.
Qui a gagné le prix du public à South by Southwest en fait cette année. Puis c'est vraiment fascinant. Ben c'est ça. Puis c'est fascinant parce que c'est un regard vraiment intéressant puis inédit sur le phénomène du live streaming en Chine.
Ouais.
Puis par live streaming, il n'y a pas de connotation sexuelle nécessairement. C'est pas du...
C'est une question que j'avais.
Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de connotation sexuelle. C'est pas des shows de webcam. C'est vraiment juste un peu comme tu as peut-être entendu parler de ça en Corée, tu sais, les gens qui se filment manger.
Ouais. Là, c'est un peu comme de la télé-réalité.
C'est ça, en fait. C'est comme un autre niveau. C'est des gens qui se filment vivre d'une certaine manière. Ouais. Sont juste pendant des heures et des heures dans une journée, sont assis devant leur webcam, ils parlent à leurs fans de tout et de rien, mais ils se bâtissent des followings énormes, gigantesques avec ça. Puis le film, t'amène derrière ce phénomène-là. En fait, il t'amène à la rencontre de plusieurs blogueurs, de plusieurs live streamers qui font beaucoup d'argent, énormément d'argent là-dessus, mais qui sont aussi attachés à des agences. Puis là, bon, le film t'explique comment ces agences-là fonctionnent, mais il t'amène aussi du côté des spectateurs, puis il t'explique un peu, où il te fait percevoir un peu c'est quoi la psychologie derrière ça, qu'est-ce qui pourrait porter des gens à dédier, on s'entend là, des heures de leur journée, de leur vie, à regarder d'autres gens
vivre simplement.
Faire rien, là, tu sais. puis je parle même pas de vivre, c'est pas comme, il y a pas des caméras dans la maison, des gens sont
vraiment devant leur
c'est
ordi,
juste,
là.
C'est littéralement, tu regardes quelqu'un assis devant son ordi, te jaser de plein d'affaires, mais il y a toute cette dimension-là, c'est ça, puis au final, c'est que ça devient un film sur la Chine, tu sais, puis ça devient un film sur... cette espèce de...
Ben,
de
la nature humaine,
la nature, ben, ouais. C'est ça, la nature humaine, puis la nature d'une société qui a un désir de développement énorme, mais qui vient à des coûts aussi énormes. Beaucoup des gens qui écoutent là, ces live streams là, c'est des gens dans la pauvreté en fait. T'apprends que c'est ça, puis tu réalises que c'est ça. Ils aspirent à quelque chose de plus, puis les live streamers deviennent des gens de héros pour eux. Fait qu'il y a toute cette dimension un peu malsaine. C'est un documentaire vraiment vraiment fascinant. Sur tout ça, puis pour moi c'est vraiment mon coup de cœur là, de la sélection documentaire cette année.
Nice. Sinon, Nicolas, t'en as-tu un autre que t'aimerais jaser, que t'as vu?
Moi, je programme pas dans cette section.
C'est pas dans le documentaire, ben non. Non, c'est correct, non, on va passer à autre chose.
Mais c'est là que il y a des films que je me garde pour rester spectateur, parce que Ariel puis moi, on est avec Simon à l'époque, on est les premiers programmateurs qui viennent du fandom de Fantasia.
Ouais.
Fait que pour rester sain d'esprit, je me garde un peu de ce côté-là pour être avec la foule puis avoir du fun avec la foule aussi.
Ben oui, c'est
et
important.
Puis, c'est ça. Les documentaires en font partie.
Ben, ah, c'est cool. Je peux peut-être en balancer un autre.
Vas-y.
Juste, en fait, que j'ai pas vu, mais que non, mes collègues me parlent vraiment très chaudement. Puis ça rejoint aussi le public de cinéma. En fait, c'est un documentaire de Frank Henenlotter.
Oui.
Qui s'appelle Boiled Angels. Donc, Frank Henenlotter qui a fait Basket Case, évidemment, Bad Biology. Le film de pénis meurtrier,
oui.
Brain Damage.
Donc, on dit que c'est bon.
Frank Henenlotter qu'on adore, mais là, c'est vraiment le fun de le voir faire un
oui, ça va dans le documentaire. J'ai été surpris de voir son nom sur l'étiquette du documentaire, d'ailleurs.
Mais c'est ça, c'est un documentaire sur... bon, je veux pas dire des niaiseries, parce que comme je t'ai dit...
The Trial of Mike Diana.
Mike Diana, qui est un dessinateur, en fait, puis qui s'est fait... qui s'est fait accuser d'obscénité pour le contenu de ses comic books. Donc c'est quand même un sujet assez fascinant. Puis c'est un autre truc, c'est ça. Pour les fans de Frank Henenlotter, c'est une petite pelle que,
ben oui.
qui vient s'inscrire dans sa filmographie qui va être assez intéressante. Là.
Nice. Puis est-ce que je me trompe, c'est la première internationale?
Oui, absolument.
Ah, c'est cool, ça. Nice. OK, je vous lance un titre de même qui a attiré ma curiosité. « Buffalo Boys ». Est-ce que vous êtes en position d'en parler? Film de Singapour, Indonésie. Ça a l'air d'un western asiatique. Puis ça, j'ai jamais vu ça.
on l'a pas vu.
Vous l'avez pas vu?
Ça, c'est nos collègues.
C'est de la section action, mais...
On savait que c'était ça. Pour que j'aille toujours des réponses au titre de film que je lance, faudrait que j'aille 28 personnes qui sont autour de la table. C'est pas vraiment de choses possibles. Mais dans ce cas-là,
on est une grosse équipe, puis...
Mais ça nous permet d'être honnête aussi, puis de dire qu'on se garde du...
Ben oui.
On s'en garde des films à voir.
Vous autres, si vous voulez découvrir des affaires, c'est normal, là. C'est votre festival à
tout ce que... Ce que je peux dire, par contre, à propos de Buffalo Boys, c'est qu'on est très, très content d'avoir un film indonésien dans la
ben
sélection.
Oui, c'est vrai.
Puis le cinéma indonésien qui puis ça me permet de rebondir peut-être sur un autre film.
Ah, ben vas-y.
Le cinéma indonésien, je trouve qu'il est en développement d'une façon. Puis c'est un cinéma que je suis très, très curieux, qu'on est très curieux de suivre, en fait. Puis une de mes grandes fiertés, moi, cette année au festival, c'est un film qui s'appelle Satan's Slaves.
Ah oui.
De Joko Anwar, qui est quand même un gros nom du cinéma indonésien, en termes du moins du cinéma de genre indonésien.
Ça fait longtemps
J'avais pas allumé, excuse-moi, que c'était indonésien. Ouais, je l'ai mis dans ma liste, justement.
Silent Sleeves a la particularité d'être un peu le... C'est un peu le Titanic du cinéma d'horreur indonésien. Ce film-là est sorti l'année dernière.
Okay.
Puis a fracassé tous les records de box-office à un point où, là, il y a vraiment une vague, un renouveau du cinéma d'horreur en Indonésie à cause de ce film-là.
Ah ouais.
Puis on se le cachera pas, souvent les films d'horreur indonésiens, c'est fait sur le cheap. C'est pas très bon. Puis c'est un peu c'est de la redite des mêmes histoires de fantômes traditionnelles, un peu poche avec les, tu sais. Il y a eu une très bonne vague de films indonésiens dans les années 80, puis c'est un peu mort depuis. Puis Joko Anwar, c'est un gars qui a grandi sur ces films-là. Puis qui, en fait, c'est un remake d'un film de 1982 qui était lui-même un remake approximatif de Phantasm de Don Coscarelli.
OK, ouais, OK.
Un remake rip-off, là.
Les droits d'auteur, c'est pas la même chose.
Non, c'est ça. Remake avec des gros guillemets.
Remake avec des gros guillemets de série B des années 80. Puis ce qu'il fait avec Silent Slaves, ce qui est fascinant, c'est que pour moi, ce film-là est au même niveau qu'un genre de Conjuring ou genre House of the Devil. Okay. C'est un film studieux, c'est un film de fan de cinéma d'horreur, dans le sens que Joko Anwar, il a clairement grandi sur ces films-là, mais il a aussi grandi sur des films comme Poltergeist. Puis pour vrai, il donne tout dans ce film-là. La mise en scène est magnifique, c'est vraiment de la grosse mise en scène de cinéma d'horreur. C'est épeurant, l'intrigue est le fun, il y a une atmosphère, tu sais, c'est ça, ça fait penser à des bons, des excellents films de maison hantée des dernières années.
Ouais.
Puis de voir, en fait, un film d'horreur indonésien de ce calibre-là, ça nous a fait le plus grand plaisir. Puis puis après l'avoir vu, c'était évident, tout s'explique, là, le succès que ce film-là a eu au box-office est absolument mérité. Puis le film s'est vendu dans 42 pays ensuite. Il est sorti en salle au cinéma à Hong Kong au mois de mars, par exemple. Il s'est fait acheter pour les États-Unis. Il va sortir après nos dates assez wide. T'sais, c'est vraiment un gros truc à ne pas manquer, je te dirais. Puis encore une fois, c'est ça, un film indonésien, ça nous fait toujours.
Ben ouais, ben oui,
Joko
Anwar, cool.
c'est un cinéaste qui a toute qu'une feuille de route. Moi, quand j'ai commencé à programmer la première année, j'étais tombé sur des films qu'il avait réalisés, puis il était juste un peu trop vieux, mais je suis en amour avec ce réalisateur-là, fait que vraiment manqué pas ça.
Cool, Satan's Slave, à mettre à votre horaire. Ben, on va prendre une mini-pause musicale, question de continuer à prendre des notes, puis je viens de vous voir de l'autre bord de l'aquarium, savoir quel film vous connaissez. Comme ça, on va s'enligner,
on rebondit.
Excellent. Mais c'est pas grave. Moi, je veux qu'on profite du temps qu'on a. Fait que je veux savoir de quoi qu'on jase. On va écouter The Cramps avec Human Fly et on vous revient tout de suite après aux oubliettes.
Six eyes, I got a garbage brain that's driving me insane. And I don't like a ride, so push that best aside. And baby, I won't care, cause baby, I don't scare. Cause I'm a reborn maggot using dream warfare. Rock. I'm a human fly. I still feel why I say buzz. I ain't as cheeky cause I'm a unzipped fly. And I don't know why. And I don't know why, but I say rock tonight, and I say rock it right, and I say, but I don't know why. Just don't know why.
Alors, on a des retours aux oubliettes sur choc.ca. Avant de continuer avec les films, j'aimerais faire une petite annonce. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, l'année dernière, Fantasia a lancé son talk show pour recevoir les invités du festival et en apprendre un peu plus. Parce que s'il y a quelque chose qu'on aime, c'est de comprendre un peu plus ce qui se passe à l'envers du décor, le behind the scenes de ces films-là. Des fois, ça nous aide à les apprécier ou à les comprendre. Et on aime ça, les entendre jaser. C'est ce que vous offre le talk show Fantasia 2018. Il va être de retour cette année. Ça va être tous les jours en ligne. Mais après ça, rediffusion 3 fois par jour sur ma TV. C'est pas rien. Donc, ça va être disponible un peu partout. Gâtez-vous. Ça va être bien trippant. Ça va être encore animé par mon comparse Benoît Mercier des Mystérieux Étonnants, réalisé par Olaf Svensson. Ça va être très, très nice. Donc, je vous invite à jeter un coup d'œil là-dessus, mais on va en reparler. On va en reparler parce que je sens que le talk show cette année va nous faire faire plein de belles découvertes.
Puis on est dessus aussi.
Bon, tu vois.
J'ai joué au dard, moi, dans ce
dans ce chalet-là.
dans ce talk show-là. Et on a fait une entrevue en jouant au dard. C'est conceptuel, c'est magnifique.
Ça va être de retour, ce petit concept-là, cette année, mais je veux pas rien spoiler. C'est pas mon show. Je vais les laisser annoncer leurs propres affaires, mais maudit que la langue me brûle. J'ai tellement d'affaires, j'ai le goût de compter. Mais non, on va garder ça pour plus tard. Faut pas tout spoiler les surprises. Donc, Nicolas, à ton tour, qu'est-ce que t'as le goût qu'on aille voir?
Moi, il y a un film qui me fait bien triper, qui s'appelle Louder Can't Hear What You're Singing, Wimp.
OK.
C'est bon, hein, comme ça.
Moi, j'ai vu la bande-annonce, je ne sais pas où le positionner, fait que je suis content que tu en parles. Aide-moi à comprendre c'est quoi Louder.
C'est une comédie
musical.
Musical.
Romantique.
Ouais.
Absurde.
Ouais, ouais. Avec,
oui, ça a l'air absurde.
Un chanteur métal, visiblement, et Sadao Abe, l'acteur, l'a dit, il s'est beaucoup inspiré de Marilyn Manson pour créer okay. son personnage. Donc, puis, ses cordes vocales explosent parce qu'il se dopait les cordes vocales pour avoir une voix plus puissante.
OK.
Fait qu'au moment que ses cordes vocales explosent, il rencontre une chanteuse qui, elle, quand t'as chante, ça sonne comme ça. Oui. C'est un murmure, là. Une
chanteuse de rue.
Ouais, une chanteuse de rue ultra gênée qui absolument... tu sais, qui... C'est pas qu'elle a pas de voix, c'est qu'elle est pas capable de chanter autre qu'en murmurant. Puis lui, il décide de la prendre sous son aile pour la faire chanter fort. En faisant des affaires du genre en plantant un gun dans la face, puis il dit Aaah! Puis là, il se dit qu'elle va crier.
À la Werner Herzog.
Ouais, ouais, il prend des moyens assez peu orthodoxes pour essayer d'y faire lever le ton, mettons. Puis okay. C'est excessivement drôle. Puis le réalisateur Satoshi Miki va être présent. Puis ça, c'était un de nos favoris qui avait fait Drift in Tokyo.
Ah oui, ok.
It's Me. Était venu au festival, c'est ça, en 2013 pour It's Me, It's Me. Puis. Ouais. Puis l'art 2, ben c'est ça, c'est un de nos grands coups, en fait, cette année. C'est une première mondiale.
Ouais.
Oh, c'est pas rien.
Ouais. Ce qui est pas rien. En fait, le film va sortir au mois d'octobre au Japon. Donc, littéralement okay. le premier endroit au monde où le film sera présenté.
Cool.
Puis c'est le premier... En fait, ce qui est très excitant aussi, c'est que c'est le premier film de Miki depuis It's Me en 2013. Donc, il avait pris une longue pause, il avait fait un peu de télé. Mais c'est son grand retour, puis c'est un retour en force.
Oui, oui. Puis c'est notre hippie japonais en chemise hawaïenne préféré. si vous avez vu le Q&A de It's Me, It's Me, je l'avais amené chez Monsieur Patate à Varennes, puis il en a parlé pendant à peu près 5 minutes. Puis il donne des bagels à tout le monde. Il est vraiment cool.
OK. Fait qu'un film à l'image de son réalisateur, ou en couleur.
Ouais.
Exactement.
Nice. T'as parlé aussi, pendant la pause, d'un film d'action qui nous ramène des années 90.
Ouais.
Je suis curieux de ça. Ouais. Tu fais référence auquel?
The Outlaws.
The Outlaws.
Qui est... c'est vraiment comme... Tu sais, prends un méchant... t'as vu Cobra?
Ouais.
Tu sais, un méchant de même, là, comme dans Cobra. Ouais. Là.
Méchant, mais il a pas besoin de raison. Je suis juste méchant.
Il est vraiment, ouais, ouais. Tu sais, un... méchant, tu sais, c'est même pas un mange-marde, il est vraiment méchant. Puis le héros, c'est un de nos acteurs préférés, Ma Dong-seok, qui est un ancien du MMA, qui est à peu près gros comme Schwarzenegger. Ben dans Train to Busan, si tu l'as vu, c'est lui qui sacrait des volées aux zombies à coups de poing.
Ah oui, ok.
Fait que lui, il fait un policier qui essaie de maintenir les gangs. Sino-coréenne.
Mais je le reconnais, ce comédien-là, puis aussi peu que je connais le cinéma asiatique, ça me dérange que je reconnais, puis que j'aime beaucoup, même.
Oui, oui, puis quand il décide de redécorer une pièce avec son adversaire,
avec ses poings,
c'est assez pas pire.
All right.
Puis il est dans un autre film aussi qu'on a, et là,
oui, il y en a deux. Hein?
Ouais. Ouais, si l'un c'était les années 90, là c'est les années 80.
Ouais, le over the top coréen. Il fait un ancien champion de tir au poignet.
Ah oui! C'est quoi le titre? Rappelle-moi le titre.
Champion.
Champion, oui, ça a l'air cool.
C'était carrément. Ça a l'air de rien, mais c'est que c'est un immigrant qui a été pris en adoption aux États-Unis. Puis lui, là, il vit aux États-Unis. Puis cet acteur-là a aussi demeuré aux States. Fait qu'il parle anglais. Fait que pour une fois, là, c'est pas quelqu'un qui parle avec un accent du joual-vert. Puis que c'est pas endurable. Là. Il est capable de parler anglais. Puis c'est ça, il est rendu bouncer. Il a été déchu. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans un tournoi. Puis là, il fait plus de tournoi. Puis il y a un de ses amis coréens qui décide de le ramener en Corée pour lui faire un tournoi là-bas. Mais là, lui, en même temps, il est confronté à redécouvrir sa famille qui l'avait abandonnée. Puis les bouts drôles sont drôles. Les bouts touchants, cet acteur-là, tu sais, il est big, puis ouais. Quand il verse une larme, ça fait... Moi, j'avais le petit menton qui shakait. puis les bouts de tournois, c'est over the top, c'est de la petite bière à comparer de ça. Les combats de tir au poignet sont écœurants.
Ça, c'est vraiment une phrase que je ne m'attendais pas à entendre aujourd'hui, là, on va se le dire. Et tu sais, les combats de tir au poignet sont
mais non, mais c'est le côté drame sportif marche, les jokes marchent, le touchant marche, c'est très drôle. Fait que je ne pourrais le recommander nice. Assez.
All right, cool. De quoi ça te tente de nous jaser, toi, Ariel?
Ben, moi, un de mes coups de cœur absolus de l'année, si c'est pas du festival, si c'est pas de l'année, c'est un film qui s'appelle Luz.
Oui, ça, j'ai hâte de voir.
C'est un premier film d'un jeune réalisateur allemand qui, sincèrement, va faire des grandes choses. Pour moi, c'est un des premiers films les plus aboutis que je vois là, depuis que je programme dans la vie. Là.
Ah ouais, hein?
C'est vraiment impressionnant. Puis ce que c'est essentiellement, c'est une histoire de possession démoniaque, mais déconstruite d'une façon qui fait penser à des cinéastes comme Zulawski, comme Lucio Fulci, mais même comme Rainer Werner Fassbinder. Il y a quelque chose de rétro, mais spécifique à genre le cinéma d'or puis d'horreur européen des années 80. Le film est tourné en pellicule aussi, il est tourné en 16 mm. Le grain, il est gros de même. Mais aussi le travail sur les décors, sur les acteurs. Les acteurs, ils ont des genres de faces. C'est ça, le straight de 1976 Berlin, genre.
Ouais, ouais. D'ailleurs, la principale, elle me rappelle une jeune Jennifer Connelly.
Ben, c'est ça, tu sais, il y a toute cette vibe-là.
Et on aime Jennifer.
Non, c'est ça. Puis le film en tant que tel raconte l'histoire d'une chauffeuse de taxi qui débarque dans un poste de police, est un peu amochée, elle vient de crasher son char. Puis ça, tu le vois jamais, en fait. Le film va comme se passer en genre de huis clos dans le poste de police.
Okay.
Mais va jouer aussi sur les flashbacks. Il y a des flashbacks, il y a des sauts dans le temps, il y a des trucs. Mais un peu comme au théâtre, en fait. Tout se fait dans un même espace avec des jeux de lumière, des jeux aussi d'interprétation. Puis essentiellement, elle arrive dans le poste de police, puis elle dit au policier, j'ai un démon à mes trousses, aidez-moi. Chose auquel la police réagit de manière plutôt difficile. Mais là, tous les passages convergent vers ce poste de police-là. Puis pour vrai, c'est ahurissant. C'est ahurissant ce qu'il arrive à faire essentiellement, le film se passe sur trois lieux. Il y a peut-être cinq acteurs. Il y a ce feeling-là de quelque chose de très minimal dans ce film-là là, qui relève un peu du théâtre. Mais c'est j'ai pas d'autre mot que c'est sincèrement hallucinant puis vraiment impressionnant ce que ce jeune réalisateur-là arrive à faire. Puis pour moi, c'est ma découverte. Ce film-là, il va être sur les tops des cinéphiles de tout genre confondus, à mon avis, à la fin de l'année. Puis je ne pourrais pas avoir plus d'éloges pour ça, en fait.
Nice. OK, cool. Vous êtes dans le cinéma asiatique. Il y a un film de Corée du Sud qui a attiré mon attention. Je ne sais pas si vous pouvez m'en glisser un mot. Gunjam Haunted Asylum.
Gunjam, oui.
Gunjam. On dit Gunjam. OK, Gunjam.
Gunjam.
Ça, je vais être franc. Moi, ce qui m'attire, c'est que la prémisse, on la voit venir. Même j'ai l'impression de voir une pub pour une émission américaine de chasseurs de fantômes avec des machines cheap. Mais les images, le visuel a l'air époustouflant. Ça a l'air intéressant. Moi, ça a piqué ma curiosité. Est-ce que ça vaut le coup? Parce que Corée du Sud, quand ils nous sortent d'un bon film d'horreur, ils réussissent à nous surprendre d'habitude.
Ouais. Puis, disons, juste pour te donner l'ampleur du hype que ce film-là a reçu en Corée, c'est le deuxième film d'horreur à avoir vendu le plus de billets dans l'histoire, juste après A Tale of Two Sisters de Kim Ji-woon, qui a fait des films aux États-Unis avec Schwarzenegger.
Ouais, ouais.
Fait que c'est le hype pour ce film-là est incroyable.
Okay.
Puis, tu sais, ça réinvente pas la roue. Absolument pas, mais ça, tout ce que ça fait, ça le fait excessivement bien. T'sais, c'est un bon found footage. Les jump scares, ils marchent.
Est-ce qu'on est dans la recette, malgré tout, classique? Puis là, je veux pas dire ça de façon péjorative, mais on est dans la recette plus classique du film d'horreur à jump scare?
Oui, oui, oui. C'est,
on aime ça quand
found
même.
Footage. Mais... Oh, oui, mais tu sais, ils ont tourné l'histoire qui entoure le film est aussi excessivement important, intéressant, parce que l'endroit où ils ont, cet endroit-là, Gunjam,
ouais.
A été listé par CNN comme, dans, je pense, la,
un des endroits les plus creepy au monde.
Ouais,
là.
Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Puis, c'est bien parce que, tu sais, tu parlais tantôt de People's Republic of,
Desire.
Ouais. Of Desire. C'est que ça va chercher l'univers du YouTuber. C'est un YouTuber qui fait un show, puis qui décide d'aller dans cet endroit-là avec des adolescentes, qui puis là lui il pense faire du stock, leur faire peur, prendre les faire jumper, mais il y en a plus que ce qu'il demandait.
Alright, cool. Ben qu'est-ce qu'on veut voir d'autre? Suggérez-moi d'autres choses.
Ben je peux te lancer deux titres rapidement. Ben on commence par un. Il y a un film que j'adore avec un grand amour qui s'appelle Relaxer.
Ah, on sent que t'as beaucoup d'amour pour ta sélection cette année.
C'est ce que je te dis. Cette année, c'est pas que les années d'avant c'était pas du vrai amour, j'ai le cœur gros cette année, puis Relaxer, pour moi, c'est aussi une super de belle trouvaille. C'est un réalisateur que je suis depuis longtemps, qui s'appelle Joel Patrykis. C'est un gars du Michigan qui fait des films punk vraiment le fun. Ils ont un sens d'un humour vraiment particulier. Puis Relaxer, c'est l'histoire essentiellement...
Ah oui, OK, je le replace, là, ouais.
Ouais, c'est l'histoire d'un slacker. Ben, puis son frère lui lance comme défi. Pour te donner, en fait, le film établit leur relation... dès le début, en te présentant un genre de défi de calage de lait absolument répugnant. La première du film à New York, il y avait des barf bags dans sur les sièges. Ça te donne une idée un peu du ton.
Ouais.
Fait que suite à ça, le frère en question dit à son autre frère, écoute, tu te lèves pas de ce sofa-là avant d'avoir terminé Pac-Man. Mais bon, tout le monde sait bien que tu peux pas vraiment finir Pac-Man. Le record du monde de Pac-Man est tenu par Benny Mitchell, qui avait comme hacké le jeu. Puis tu peux pas passer au-delà de ce glitch-là. Fait que, puis le film te présente tout ça. Fait que tu comprends, en fait, que il vient te donner une quête absolument impossible à ce gars-là. Mais n'empêche, le gars ne se lèvera pas de son sofa avant d'avoir fini Pac-Man. Le film se passe en 1999, à quelques semaines du bug de l'an 2000. Fait qu'il y a comme ce genre de countdown-là qui reste en tête. Mais le film essentiellement se transforme en genre de Gerald's Game de gamer, tu sais. C'est le gars qui est sur son... Puis le film se passe tout sur la couch. Le gars arrive, il refuse de se lever avant d'avoir fini le jeu, mais éventuellement, il faut bien qu'il pisse, il faut bien qu'il mange, il faut bien qu'il... Mais il se lèvera pas, puis il va juste dépérir et dépérir. La pièce va se mettre à puer, tout va se mettre à pourrir, puis c'est juste ce gars-là qui va essayer de survivre sur ce sofa-là en maintenant son genre de but absurde de finir Pac-Man, tu sais. Fait que comme si je te décris ça, c'est complètement absurde, mais c'est l'humour, c'est le ton puis l'inventivité de ce film-là qui se passe juste dans une seule pièce aussi, qui m'a jeté à terre. Tu sais, il appelle ses amis pour qu'ils amènent de la pizza, puis là, les gens qui rentrent dans son appart sont, tu sais, je veux dire, c'est des losers, tu sais, il y a des genres de gags, de dialogues incroyables.
OK. Mais je vais dire, a priori, moi, j'ai regardé la bande-annonce. La bande-annonce, mais j'ai lu le synopsis probablement, je me suis dit... Je sais pas, ça me tente ça, mais je t'écoute, puis c'est là que je réalise à quel point c'est une réaction un peu niaiseuse, parce que justement, pour qu'un film comme ça se ramasse à Fantasia, je me dis, ok, il y a quelque chose. Si justement, puis j'ai souvent fait l'éloge de films comme ça, de huis clos, que t'as l'impression qu'il se passe rien, mais justement, pour rendre ton film intéressant, avec un huis clos comme ça, avec un sujet comme ça, ben là, ça, c'est un tour de force, puis c'est là qu'il réussit à nous surprendre.
Oh
aussi.
Oui, absolument. Puis pour te dire, il y a des raisons, il y a absolument des raisons. Moi, quand j'ai vu ce film la première fois, j'avais aucune idée où ça s'en allait. Puis je te dirais, l'étendue des situations qui arrivent dans ce film-là, pour un film de gars assis sur un couch, c'est incroyable, c'est hallucinant à quel point il pousse ça loin. Puis bon, je veux pas non plus vendre des punchs, mais il y a des éléments qui le situent très fermement dans du cinéma de genre purement fantasien. Quand t'arrives à la fin, tu comprends exactement pourquoi t'es là.
Nice.
Mais dans tout cas, je trouve ça intéressant qu'est-ce que tu viens de dire, parce que tu sais, c'est vrai qu'il y a des films. Regarde-moi, mettons, il y a un de mes coups de cœur, Cassané, que si tu lis le synopsis, tu sais, c'est une fille qui a une cicatrice dans la face.
Oui, oui.
Qui est super bonne actrice. Puis il y a une super belle actrice qui est absolument exécrable dans son jeu. Puis ils ont un bâtonnet de rouge à, un bâton de rouge à lèvres magique que quand ils mettent ce rouge à lèvres là puis qu'ils s'embrassent sa bouche, ils changent de face.
Ah oui, ok, ouais, ouais.
Ça a l'air gnochon comme ça, mais c'est tellement bon parce que le casting est hallucinant parce que quand ils changent de face, ils changent, tu sais, l'actrice change totalement d'attitude parce que c'est une actrice belle qui devient avec une cicatrice dans la face, mais elle s'en sac, là, fait qu'elle sait qu'elle va revoir sa face, fait qu'elle se promène dans la rue, puis l'autre, même quand elle est belle au début, elle est encore à tendance à, fait que tu vois leur personnalité évoluer à travers ce film-là, tu sais, il y a des films aussi, nous, en tant que programmateurs, tu le vois, puis tu fais comme « Ouais, je suis pas sûr. » Puis là, quand tu fais ta recherche, tu te dis « Je suis pas sûr. » Puis quand tu le vois, ça fait comme « OK. » Puis juste, il y a aussi l'acteur Tadanobu Asano qui est dans ce film-là. Et puis, c'est l'acteur japonais le plus connu sur la planète. Là,
mais il était dans Thor.
Il était dans Thor. Ouais, ouais, ouais. Il faisait le...
OK, mais regardez. Il jouait le japonais. Ouais, lui de même.
Le dieu de je sais pas trop
quoi. Ouais, le dieu de...
OK, regardez, il nous reste 4 minutes.
Yes.
J'aimerais ça que vous me sortiez. Puis là, on va pas dans la description.
Bien sûr, en
sortez-moi rafale. Au moins 3 autres titres que vous croyez qu'on devrait surveiller.
OK.
Ben, je dis chacun votre tour. S'il y en avait 2-3 chaque, allez-y, là. OK.
Hanagatami.
OK, ouais.
Qui n'est pas un film d'horreur, mais que tous les fans de cinéma d'horreur devraient voir parce que c'est le nouveau film du réalisateur de House.
Ah oui, OK.
House-su.
Oui, oui, oui.
Le film culte que tout le monde connaît maintenant, oui, grâce à Criterion. Merci, Criterion.
Merci, Criterion.
C'est son nouveau film, basé sur son premier scénario. Et tourné dans le style de ses débuts.
OK.
Donc, c'est aussi inventif, c'est aussi pété, c'est aussi psychédélique que House.
Cool. All right. Nicolas?
Moi, je dirais The Witch, le film d'action coréen The Witch Part 1 de Subversion, qui est un film d'action avec des gens qui ont des pouvoirs télékinésiques. Fait que c'est un peu comme un film d'action ultra-violent, mais avec des Jedi.
All right.
C'est à peu près ça, puis c'est vous ne regretterez pas la dernière demi-heure, c'est un bête ça, c'est
cool,
c'est fou.
Ben mais maintenant, chers auditeurs, vous comprenez pourquoi j'aime recevoir Nicolas et Ariel en studio, pas pour vous complaire dans vos sélections que vous aviez déjà, mais pour nous amener ailleurs. Moi, ils m'amènent ailleurs, puis c'est pour ça que j'aime les recevoir ici aux Oubliettes, parce qu'il faut faire de la découverte. Et ils m'ont permis de découvrir, là, ils vont juste alourdir ma liste de sélection. Mais c'est ça aussi qui est important avec Fantasia, c'est d'aller ailleurs, faire des découvertes. Vous le savez, il y a des vieux films québécois, il y a des vieux films d'horreur, il y a des vieux films de kung-fu. On a des films pour tous les goûts, tous les genres, des drames, des films art house.
Des comédies romantiques.
Des comédies romantiques, des cinémas d'horreur à pelleter. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des courts-métrages à la tonne aussi. Il y a le Fantastique Week du cinéma québécois. Il y a du stock, il y a du stock, il y a du stock. Je le sais que vous allez tous sauter ces films d'horreur, ces films d'action, ces films bizarres, mais c'est pour ça que je les ai reçus, pour nous ouvrir nos horizons aussi. Il y a beaucoup d'autres films que j'aurais aimé discuter, mais ça, ça sera à venir. Ben oui, mais ça sera à venir durant le festival. Ariel, Nicolas, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui.
Merci pour votre travail,
pour nous offrir une si belle sélection encore cette année au Festival Fantasia. Ça va être très cool. Pour les auditeurs des Oubliettes, la semaine prochaine, on prend relâche. Parce que ça tombe juste avant le festival, on n'aura rien à dire encore. Donc, ça vaut pas la peine. On saute le mardi prochain et on va vous revenir donc dans 2 semaines avec notre team de feu de critiques. On va être 6. Attends, il va y avoir moi, Olivier, bien entendu, Laurence Côté-Collins, la réalisatrice, va être présente. On va avoir Steven Lefrançois de Séance de minuit et Horror Gamer. Et on va avoir évidemment Eric et Marc de Horreur Québec. Toute cette belle équipe-là va vous critiquer les films tout le long du festival, juste pour vous, aux Oubliettes. Ça va être solide. On va se chicaner en studio, on va se faire des câlins en studio, on va crier, on va rire, on va avoir du fun et tout ça, on vous le doit, entre autres, messieurs. Merci beaucoup. Donc, On se revoit dans deux semaines. Merci encore d'être venu aux oubliettes. On se laisse avec La Femme et Sur la planche. Merci beaucoup.